Salut, salut, je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Mon invitée aujourd'hui s'appelle Sandrine Deschaux, c'est une célèbre agent immobilier ici à Boston et elle parle de son métier qu'elle exerce depuis 20 ans avec passion. Bienvenue dans What's Next, c'est un podcast dans lequel je discute de trajectoires de vie non linéaires, du temps qui passe, de l'âge, de la vie quoi. Vous aimez ce que vous entendez, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est vous abonner à la newsletter What's Next dans une formule payante. C'est comme ça que ce projet existe. Et la formule payante de What's Next, elle vous donne accès à toutes les archives et à tous les vendredis matins, à 8h30 très précisément, une missive de ma part, des récits personnels, des articles de coup de cœur, des podcasts bonus et la possibilité de participer à mon atelier d'écriture mensuel. Ça se passe sur whatsnextmathilde.substack.com, c'est la meilleure façon de soutenir What's Next et de profiter de l'offre dans son intégralité. La deuxième façon, vous n'avez pas encore envie de vous abonner, vous avez envie, mais pas encore, pas tout de suite. C'est dommage, mais c'est pas grave, vous pouvez aussi noter ce podcast 5 étoiles de préférence. Vous pouvez le partager avec vos proches, vous pouvez en parler au moins à une personne autour de vous, une personne qui se questionne elle aussi sur sa trajectoire de vie non linéaire. Faites connaître ce projet sur les trajectoires de vie non linéaires. Je vous en remercie d'avance. Alors, avec Sandrine, de quoi a-t-on parlé ? On a parlé de son travail pour commencer et de sa carrière dans l'immobilier aux États-Unis. Sa carrière vraiment brillante et très impressionnante, vous verrez. Et dans un deuxième temps, on a parlé de choses plus personnelles, mais tellement importantes quand on parle de trajectoire non linéaire. On a parlé de sa love story avec son mari qui est décédé l'an dernier. On a parlé du départ imminent de sa grande fille pour l'université. On a parlé de sport et de changement physique après 50 ans. On a parlé de what's next pour elle, du prochain chapitre de sa vie. J'ai adoré discuter avec Sandrine. J'ai adoré aussi réécouter notre échange et de préparer cet épisode pour vous. J'espère qu'il vous touchera autant que ça m'a plu de le préparer, de l'enregistrer et de l'éditer pour vous aujourd'hui. Voilà, je laisse la place à ma conversation avec Sandrine Deschaux. Sandrine, tu es agent immobilier, ça fait 20 ans que tu es dans cette industrie ici à Boston, en fait plus précisément à Cambridge. Tu es régulièrement classée parmi les meilleurs agents de la ville, mais quand je t'ai rencontrée, c'est pas tant ton palmarès qui m'a impressionnée, c'est plutôt ta gentillesse et ta chaleur humaine. Tu es sympa, tu es quelqu'un de sympa. Salut Sandrine!
Merci Mathilde, quelle intro, je prends. Bonjour à tous.
Alors,
je vais essayer de répondre à toutes tes questions avec le plus d'humilité possible.
Sandrine, j'ai une question toute simple, vraiment une question basique. C'est quoi la mission d'un agent immobilier?
Alors, la mission d'un agent immobilier, c'est d'accompagner les vendeurs, les acheteurs, dans cette démarche qui est l'une des démarches les plus stressantes pour un acheteur, qui est d'acheter un bien, une maison, un endroit de rêve, un endroit qui leur plaît. Et c'est de les accompagner dans cette démarche qui est souvent très émotive, émotionnelle. Il y a la négociation, il y a identifier le bien qui leur correspond. Donc, c'est à la fois, c'est un rôle d'accompagnement finalement, depuis l'identification d'un besoin jusqu'à l'identification du bien et la négociation de ce bien. Donc, ça, c'est pour l'aspect acheteur. Et pour l'aspect le vendeur, c'est évidemment, c'est beaucoup plus du marketing, c'est accompagner le vendeur dans cette vente et c'est prendre en charge finalement un bien, le préparer, le stager, et on peut en parler dans le détail puisque aujourd'hui il n'y a pas un bien qui vient sur le marché qui n'est pas stagé ou stylé. Et ensuite le marketer. Et le marketer, c'est grosso modo développer une storytelling sur cette propriété de manière à pouvoir rencontrer la clientèle ou en tout cas les acheteurs qui pourraient être séduits par ce bien. Donc là, c'est un boulot un petit peu différent. D'un côté qui est l'acheteur, c'est un boulot d'accompagnement finalement et de négociation évidemment dans tous les deux cas. Et sur l'aspect vente, ce n'est c'est du marketing, c'est-à-dire arriver à avoir une histoire, à raconter une histoire sur un bien et le vendre, bien sûr.
C'est hyper clair et je trouve ça c'est assez représentatif que tu commences en disant c'est un boulot d'accompagnement, parce que j'ai dit que tu étais quelqu'un de sympa et de chaleureuse, et j'aurais pas dit, moi j'aurais pensé que tu allais parler de la dimension commerciale, mais en fait, l'accompagnement au premier, je trouve ça bien.
Quoi. Oui, alors moi je suis rentrée dans l'immobilier jamais avec l'idée d'être dans la vente, alors que oui, bien sûr, c'est un métier de vente puisque l'on vend. Mais en fait, je n'ai jamais perçu comme ça. En France, ça a cette connotation agent commercial, tu vois, un peu les dents longues qui rayent le plancher. Moi, je suis rentrée dans l'immobilier vraiment avec le plaisir des maisons. J'adore le design, j'adore la déco. Et je crois que j'aime les gens dans leur complexité. Je les déteste à la fois parce que je reconnais que la nature humaine est abîmée. On a tous nos ombres, nos parts d'ombre. Mais en fait, j'ai une espèce d'empathie qui m'amène à vraiment avoir du plaisir dans cette démarche et puis de contrôler les émotions. Des acheteurs et des vendeurs d'ailleurs, hein, qui des fois sortent du réalisme en fait, veulent trop. Donc il faut les encadrer, il faut être vraiment tolérant d'une certaine manière pour les amener à comprendre en fait, à expliquer et à rationaliser en fait. Voilà, il y a beaucoup de rationalisation en fait.
Donc en fait, on parle d'accompagnement, on parle aussi d'émotion. Je ne pensais pas qu'on allait parler de ça, mais alors c'est quoi un bon client? C'est quoi un horrible client? Si tu peux répondre à cette question.
Oh, c'est une question. Je n'ai pas d'horrible client.
Mais là, tu as dit, je déteste certains. Je déteste.
Non, c'est pas. Non. C'est la tendresse. Moi, j'ai la tendresse sur la nature humaine. Donc, ça me permet d'accepter beaucoup de choses. J'ai eu dans mon histoire, ça fait 20 ans hein, que je pratique l'immobilier. Donc, c'est cette année, c'est ma 20e année. J'ai eu des individus qui ont été en deçà en termes de respect, etc., ou de comportement que j'ai moi-même fired.
Okay.
J'ai décidé, j'ai clairement assumé le fait que non, on ne pouvait pas travailler ensemble parce que ça dépassait l'entendement en termes de comportement. J'ai le souvenir d'une personne comme ça qui était très exigeante, comme si tu étais à son service, en fait. Hein. Moi, j'ai besoin de travailler avec des gens qui me font confiance. J'ai besoin de m'amuser. Autrement, ce n'est pas la peine. La vie est trop courte. Donc, s'il n'y a pas du fun, s'il n'y a pas cette relation de confiance, ça m'intéresse moins. Mais j'ai le loisir aujourd'hui de pouvoir choisir, ce qui est un truc fantastique, quoi.
Dans un article du New York Times qui est paru le 28 avril 2024 sur les agents immobiliers devenus stars de télé-réalité dans des shows comme Buying Beverly Hills, je t'avais dit que je regardais, Million Dollar Listing ou bien encore Selling Sunset, la journaliste met en avant l'ambivalence d'une part entre la passion de l'audience, comme moi, pour les propriétés de luxe, et la réalité du marché aux États-Unis, qui est des taux d'emprunt très élevés, le pouvoir d'achat qui est assez bas, le fait qu'il n'y ait pas toujours un inventaire très costaud. Est-ce que toi déjà, ma première question, c'est est-ce que tu regardes ces shows avec de télé-réalité sur les agents immobiliers?
Pas du tout. Non, le seul que je regarde, c'est l'agence. La famille Kretz, je trouve qu'ils sont fabuleux et c'est une famille tellement joyeuse et tellement génuine, enfin, dans ce côté tellement authentique. Je ne suis pas surpris qu'ils font un carton, cette famille, parce qu'ils ont vraiment une approche complètement à contre-pied, en fait, de ce qu'on attend des agents immobiliers. Et je trouve que c'est très beau. Leur succès est très beau. Les autres, enfin, ça me paraît très. C'est vraiment une partie du business et c'est amplifié. Ça s'appelle, on l'appelle aussi The Celebrity Porn House, right? Ospa Porn. On est dans le Massachusetts. c'est quand même New England, Waspy. Non, ici, ça ne se, tu le sens pas. Je pense qu'un agent qui travaille en Californie a beaucoup plus et beaucoup plus dans cette relation show off et so forth. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande, les social media nous ont amenés à devenir d'une certaine manière, des influenceurs, en fait. C'est très drôle. Et c'est là où cette industrie change en permanence tous les 5 ans. Il y a un vrai mouvement. Et aujourd'hui, c'est vrai que les prises de parole se font en ligne. Et c'est ce que l'agence et la famille Kretz réussissent superbement. Ils ont été capables de leverage leur présence en télé, en social media, et maintenant arriver à faire de l'immobilier sur l'international. C'est formidable ce qu'ils ont fait. Ils ont su saisir un mouvement de cette curiosité, des maisons, des belles maisons à travers le monde. Et ça marche fort pour eux. Cambridge, c'est très progressif. C'est une ville. On est dans Boston, on est dans une des villes très progressives, mais pas du tout tape à l'œil. New York est tape à l'œil.
Est-ce que
Los
quand
Angeles
même...
est tape à l'œil.
J'ai quand même une question sur ce côté glamour, mais après, on pourra passer à autre chose. Ouais. C'est quoi la maison la plus dingue que tu aies vendue, mais pas nécessairement la plus chère, mais un bien qui était vraiment exceptionnel et quand tu l'as vu, tu t'es dit, oh, c'est incroyable. Est-ce que tu pourrais me décrire ce... Déjà, quand je regarde sur ton site les maisons que tu vends, des fois, je me dis, wow, c'est quand même c'est fou, quoi, parce que moi, je ne suis pas du tout au niveau de pouvoir acheter ce genre de propriété. Et je trouve ça, même si ce n'est pas des trucs à 100 millions de dollars à Beverly Hills, je suis déjà quand même impressionnée, quoi.
Alors, c'est marrant. Alors, voilà. Alors, moi, je ne suis pas impressionnée nécessairement par la maison chère, parce que la maison chère ne veut pas dire nécessairement la maison avec une âme. Mm-hmm. Donc, ça, il y a de ça. Donc, de la même manière, je ne cherche pas nécessairement à marketer des maisons chères. C'est vraiment avoir une relation super sympa. Alors, dès lors qu'on me propose ça, je suis à fond. Non, celle que récemment, l'année dernière, j'ai vendu une maison fabuleuse. Enfin, j'ai dû prendre l'initiative d'appeler les magazines bostoniens pour avoir une couverture médiatique. Mais c'est plus une relation à la décoration, au interior design. C'est plus ce qui me fait vibrer dans la maison qui peut être chère, mais belle. Il y a des maisons chères qui ne sont pas forcément belles. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est « cher » ne veut pas dire « beau hein ».
Non, je suis d'accord. Alors justement, sur un peu la partie moins visible de ton travail, donc nous, si je reviens en arrière, quand on s'est rencontrés, c'était en janvier 2020, c'est okay. Un excellent moment pour se lancer là-dedans. On a eu un premier rendez-vous avec toi. Tu nous as expliqué comment ça marchait. En fait, nous, on t'a dit ce qu'on cherchait, notre budget, tout ça. Ensuite, on a visité des appartements. Parfois, tu es venu avec nous. Et ensuite, on a trouvé un appartement. Tu nous as aidé. Tu as rédigé. Tu ne m'as même pas aidé. Tu as tout fait. Tu as rédigé l'offre. Et puis, voilà. Nous, c'est ce qu'on a vu de ton travail.
Il y avait plusieurs offres sur la table.
Ouais, hein. Ouais, il y avait toujours aussi une compétition d'offres, d'enchères et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est, toi, ton travail de l'ombre ? Tu as parlé un peu du staging. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas vu de tout ce que tu as fait pour mon cœur ?
Je pense que ce que le public, d'une manière générale, ne voit pas, c'est la gestion d'un business derrière. C'est-à-dire que quand tu te lances dans l'immobilier, oui, tu es rattaché à une agence, mais grosso modo, tu es ta propre entité, ta propre marque. Et donc, derrière, il y a beaucoup de travail qui est fait comme un entrepreneur, en fait, de développer une marque, qui tu es, quel est ton degré de séparation sur le marché avec d'autres agents, comment tu vas te présenter, est-ce que tu vas être plus un buyer agent, un agent de l'acheteur, est-ce que tu vas être un agent du vendeur ou les deux. Moi, j'ai besoin de cet équilibre, j'ai besoin des deux parce que l'un informe l'autre, donc j'ai besoin de ça. Voilà, donc c'est construire, c'est avoir une présence, c'est avoir un marketing plan pour toi-même, pour avoir une présence vis-à-vis de tes clients existants, des nouveaux créés, et d'aller générer du business, ce qu'on appelle lead generation. Donc ça, c'est la partie plus entrepreneur, en fait, la partie création d'entreprise et développement de l'entreprise pour assurer une croissance. Voilà. Donc ça, c'est la partie qu'on ne voit pas. Quand on voit tous ces agents qui présentent des biens, qui sont habillés avec… voilà. Derrière ça, il y a quand même un travail de fond de construction d'une entreprise, en fait. Hein. On est chacun une entité, en fait.
Mais tu vois, naïvement, j'aurais tendance à penser que certains des appartements ou certaines des maisons, tu vois, tu se vendraient seules tellement elles sont bien. Mais toi, tu dis vraiment non, il faut venir mettre une histoire. C'est ce que tu disais quand tu te places du côté du vendeur. Il faut quand même. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement raconter une histoire pour vendre une maison ?
Oui, raconter une histoire pour vendre une maison, c'est-à-dire définir cette maison apportera. C'est-à-dire, non, est-ce que c'est une maison qui est adaptée, on va dire, pour des empty nests? Est-ce que c'est une maison qui est adaptée pour une jeune famille? Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que c'est une maison d'un entertainment space? Donc, en fonction des lifestyles, c'est plus l'étude des lifestyles, en fait, et de se dire, OK, quelle est ma clientèle? Okay. Donc, quel est mon argumentaire, finalement?
Tu l'as mentionné, ça fait 20 ans que tu fais ce métier, mais donc tu n'as pas toujours fait ça. Tu as travaillé dans la pub et tu as travaillé en France avant de venir aux États-Unis. Alors, j'ai une double question. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu, que tu as laissé tomber la pub et que tu es venu aux États-Unis? Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours et ton premier job? C'est trop long, c'est une trop longue question.
C'est une longue histoire, mais c'est une histoire merveilleuse. Mais voilà, j'ai été dans la pub dans les années 80, les années 90, désolé. 90, c'était génial. C'était des années Mondino, Vanessa Paradis, le black and white, c'était léché, c'était artistique, créatif, c'était chouette. Et j'étais dans la pub dans cette décennie qui est quand même… donc, c'était formidable. J'ai eu une carrière super intéressante. Je travaillais sur Lyon, chez McCann Erickson, agence de pub. Et j'ai géré GoSport, j'ai géré des Pasteur Mérieux aussi. Donc, tu touches à tout, des fromages, quoi. Comment il s'appelait? Bon, bref, multiples marques. Donc, c'est fabuleux jusqu'au jour où je suis venue aux États-Unis. J'ai rencontré donc mon homme, Peter.
Mais attends, je t'arrête. Tu es venue aux États-Unis en vacances ou c'était pour…
Je suis venue juste voir une amie qui faisait un PhD en chimie à Harvard. Donc, je suis venue passer 10 jours et j'ai d'une manière très… Serendipity, tu vois, j'ai circonstanciel, je suis tombée sur donc la personne qui est devenue mon mari pour 20 ans.
Peter.
C'était une histoire magnifique parce qu'on s'est rencontrés sur… Tu me dis, tu m'arrêtes là-dessus.
Vas-y.
On s'est rencontrés sur ce footbridge, ce pont qui menait de MGH là sur Charles Street une première fois et ensuite 2 heures plus tard, une deuxième fois, les portes de la rame de métro se sont ouvertes et ça a commencé d'une manière assez… c'est très super joli, quoi. On a une très belle histoire, une histoire d'amour et qui a duré 20 ans. Voilà. Ouais.
Tu m'en as parlé de ta love story et puis je recevais vos cartes de
Noël,
de bonne année et tout ça. Il est décédé il y a un an. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça?
I would say it in English. I'm okay.
Vas-y. Ouais.
Peter est un mec génial. I mean, c'est mon mari, évidemment. J'étais sa muse, j'étais son partenaire. C'était un gars avec une ouverture d'esprit fabuleuse et à la fois d'une sagesse incroyable, à la fois quelqu'un qui a d'ailleurs vécu son cancer puisqu'il est décédé du cancer, glioblastoma, cancer tumeur du cerveau. Donc, je l'ai accompagné, parlant d'accompagnement encore une fois, pendant 4 ans dans ça. Mais si tu veux, il était prêt. Et ma fille te dirait, papa a tellement bien vécu. Il a tellement bien vécu. Donc, on était en paix. Il a été incroyable jusqu'au bout en nous permettant de continuer à vivre sans lui. C'est beau. Parce qu'il avait cette spiritualité On savait qu'on y allait, donc on s'est préparé en fait. On s'est préparé. Voilà, donc aujourd'hui, par respect pour lui aussi et pour notre histoire, je continue. Hein? C'est bizarre, c'est très bizarre. Et je sais que beaucoup de femmes peuvent faire l'expérience d'un décès d'une manière complètement, et je ne sais pas, complètement différente que... notre relation était aussi atypique. Je me suis brûlée les ailes à venir. Enfin, j'ai tout quitté. Hein. J'avais 30 ans, j'en ai 53. J'ai tout quitté à 30 ans pour cet homme. Et c'est d'ailleurs d'où l'immobilier, parce que quand je suis arrivée ici, moi j'ai pensé qu'il allait être volage et être infidèle et qu'on allait divorcer parce que je me suis un sur deux, couple fini en divorce. Jamais j'ai pensé que j'allais, tu vois, on allait se retrouver dans une situation
de vie ensemble,
comme la maladie, quoi. Ça a été l'une de mes motivation au départ dans cette carrière, parce que je me dis il faut que j'ai la liberté de pouvoir voyager, parce que j'adore voyager, et aussi de rentrer voir ma famille si, quand je le veux, je suis très éprise de ma liberté. Et ça a été mon drive, en fait, de me construire un business où je suis indépendante financièrement, au cas où quelque chose venait à advenir. Donc voilà.
C'est vrai que c'est quelque chose que tu m'avais mentionné quand on avait discuté, là, le fait d'avoir un job qui te permet d'avoir cette indépendance financière, no matter what, quoi, derrière, peu importe ce qui se passe derrière, quoi. Tout en disant que tu as vécu une super love story. Donc, ce qu'on pourrait comme un peu, je ne sais pas ce qu'on pourrait se dire, mais ouais, toi, ça venait vraiment de toi, de te dire je veux garder, maintenir cette indépendance, même si voilà, j'aime cet homme.
Et ça, pour moi, c'était essentiel parce que, tu sais, en France, tu rentres après 5 ans, tu as laissé un gros trou, tout le monde t'a oublié professionnellement, surtout quand tu as 30 ans, quoi. C'est vachement dur de trouver. Donc, j'ai eu très peur de cela. Donc, j'ai dû me protéger, en fait, de à la fois vivre cette romance et cette belle histoire, et à la fois en me disant, ouh, mais attention, tu peux te brûler les ailes et tu as intérêt à te protéger, quoi. J'ai toujours eu un peu cette fatalité, c'est aussi peut-être cette fatalité de la vie, en fait. Hein. J'ai toujours eu, très jeune, ce regard sur la vie où la vie peut s'arrêter très vite. Donc, finalement, ça m'a aussi permis de la vivre. Je considère que so far, so good. Même avec ce que j'ai vécu, qui est un drame familial, la difficulté, mon mari était handicapé pendant 1 an et demi. Et jusqu'à 5 mois avant son décès, je l'ai amenée à Miami. Les gens me regardaient avec des yeux comme ça dans l'avion, en disant « mais elle est folle !» Et si tu veux, tu trouves cette force en toi pour… c'est un truc incroyable. L'être humain a une force insoupçonnée, en fait. Quand tu es confronté à la difficulté, c'est incroyable.
Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'apprécie chez toi. Alors, on s'est rencontrés dans cette relation d'agent et de client, mais c'est vrai que je me suis dit toujours, Sandrine, elle a quelque chose, elle a une sorte de force, de drive. Alors, je suis contente d'en apprendre plus sur...
Je ne sais pas d'où ça vient, Mathilde, mais je pense que c'est vrai. Enfin, c'est pas du tout... J'ai toujours essayé de trouver d'où ça vient. Tu sais, j'ai une éducation plutôt... mes parents étaient très conventionnels, très très stricts, tu vois, mais pas stricts, rigoristes. La politesse, je viens de l'Ardèche, tu vois, je suis ardéchoise, le sens de la terre, je me sens venir de la terre, j'ai des racines vigneronnes, tu vois, il y a tout ma famille, le fief est toujours là, il y a cette force qui vient de ça, je me dis, enfin, j'essaye de comprendre. Et ensuite... dans ma vingtaine, j'étais beaucoup confrontée à moi-même. Je m'isolais. Je suis une extroverte introverte. D'ailleurs, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, j'avais besoin de me retrancher derrière les livres, la compréhension de la nature humaine. Tu vois, j'ai toujours eu une extrême sensibilité. J'aurais aimé être psychologue, en fait.
C'est peut-être ce qui fait que tu es une bonne agent immobilier.
Oui, c'est pour ça que les gens m'éclatent en fait. J'adore les gens, j'ai vraiment une tendresse pour les gens. Donc c'est là où je me fais plaisir à rencontrer tu vois, des couples, des jeunes couples ou plus vieux et de voilà. Non, ça c'est sympa. J'ai l'impression, en fait, je suis super triste. Le jour où on va pour le closing, j'ai horreur des closings. Alors que ça devrait être la fête. En fait, je n'aime pas. Parce que je sais que c'est la fin de l'histoire, de la journée. Tu vois, c'est cette notion-là.
En même temps, j'ai l'impression, quand on était en plein open house et tout ça, les visites d'appart, tu me disais, ah oui, celui-là, je l'ai acheté puis vendu. J'ai l'impression que les gens, je dis, le jour où on doit vendre notre appart, je pense qu'il n'y a qu'un agent qu'on peut.
Oui, alors ça, c'est super. J'ai des clients, j'ai travaillé avec eux déjà trois fois. Donc, tu les suis, jeune professionnel. J'en ai une cliente, je pense à elle là tout de suite. Elle était juste sortie des études. Après, elle a rencontré un partenaire. Maintenant, ils ont donné. Tu vois, et tu suis en fait. Maintenant, elle est à New York. Elle me dit, Sandrine, you have to come to New York. mais je connais rien, moi.
J'ai l'impression que tu. Enfin, moi, je t'ai rencontrée via une collègue française et je t'ai recommandée à deux autres familles françaises et d'autres Français m'ont parlé de toi. J'ai l'impression, est-ce que je me trompe si je dis que tu es l'agent immobilier des Français de Boston?
Alors, je ne dirais pas parce qu'il y a de plus en plus d'agents français. Je suis peut-être la première. Okay. Je pense que j'ai ouvert des opportunités. Donc maintenant, il y en a beaucoup plus dans différents marketplaces, en fait. Je peux plus dire ça. Mais disons qu'en tout cas, sur mon territoire, oui, géographique certainement, mais pas seulement. Et tu sais, ça a été un choix, ça. Quand j'ai commencé cette carrière, je me suis dit, est-ce que je veux être exclusivement française, français, tout français, tu vois? Et en fait, non, j'ai décidé que, parce que déjà, mon mari était américain et je voulais pas du tout m'isoler et vraiment rentrer. Donc, en fait, je me suis jamais présentée comme l'agent des Français.
Oui, voilà. Oui.
Et ma carrière, du coup, c'est super parce que c'est très international, en fait. Et voilà, quoi. Oui, ça a été un choix. Ça, j'ai fait le choix à un moment où j'aurais pu me dire je fais du 100%. Mais non, ça, c'était pas ce que je souhaitais faire.
Pour revenir au sujet de la famille, tu as mentionné que tu avais une fille. Alors, tu as une grande fille. Moi, ma fille, elle a 3 ans. La tienne, elle a 15 de plus.
Ça, j'ai dit, profitez-en qu'ils sont petits comme ça.
Elle va à l'université l'année prochaine.
Voilà. Donc, je vais être, en plus d'avoir perdu mon mari, je vais donc me retrouver. Je suis vraiment dans un changement. Alors là, ton podcast, c'est What's Next. Mais alors, je crois qu'il n'y a pas plus relevant, en tout cas, pour ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, puisque oui, ma fille va partir dans ses années universitaires. Donc, elle a grandi dans le public, dans le système public américain sur Cambridge. Et là, elle part dans le Maine. Voilà. Donc, ça va être une étape. Incroyable, en fait, on s'y prépare pas, je crois. On s'y prépare pas. Et ça vient à un moment dans ta vie. Enfin, moi, c'est une conjonction d'événements avec Peter, mais aussi, ben voilà, à 53 ans, ménopause. J'ai écouté un bon podcast d'ailleurs hier. Parenthèse. Bon, tu vis. Il y a un gros changement qui s'opère physiquement, mais aussi psychologiquement, et avec le départ de ton enfant, c'est un truc de dingue, en fait.
Oui, il se passe vraiment beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, on dit l'âge, c'est pas tant l'âge qui compte, c'est aussi tout ce qui se passe autour. Là, tu l'as dit, tu as 53 ans, je t'ai pas posé la question directement, mais qui est-ce qui te demande ton âge? Est-ce qu'on te demande ton âge, parfois?
Non, bah déjà, j'ai la chance. Certains pensent que je suis bien plus jeune, donc tout va bien.
Mais je me souviens d'une photo sur Instagram que tu avais posée, là, une certaine photo. J'ai 50 ans, c'est pas mal la meuf.
Ah bon? J'ai un gars, un client, l'autre jour, il dit, t'as le même âge que moi, 45 ans. Non, juste. Mais non, c'est plus, tu sais, je crois que le sentiment de l'âge, il se fait vraiment la ménopause. On n'en parle pas assez et c'est en train de sortir et c'est très bien parce que il y a des transformations physiques qui s'opèrent, qui sont assez. Et là, c'est là où tu sens la ménopause. Mais comme tu l'as dit, c'est aussi contextuel. Si tes parents vieillissent, tu le sens. Le monde autour de toi, la maladie devient fait partie de ton univers aujourd'hui. C'est un truc de fou parce que 40 ans, pas du tout. Évidemment, tu matures, mais c'est un super âge, 40 ans, il faut en profiter parce que tu comprends qui tu es, tu explores. Alors bon, t'as des enfants. Donc, le problème, c'est que tu es un peu shifté à cause de ça parce que du coup, tu es un peu recentré sur l'enfant et c'est… Enfin, dommage, évidemment, c'est merveilleux. Mais je veux dire, c'est un moment où tu es en pleine possession de tous tes moyens, en fait. Alors qu'à 50 ans, tu commences à, tu vois, cloudy mind, tu commences à avoir un petit peu psychologiquement, et puis tu as moins de résistance. Moi, j'ai moins de résistance, et même professionnellement. J'étais capable de faire un tel succès parce que j'étais rapide. Je pense vite, je travaille vite. De 6h à 8h, j'ai déjà fait partie de ma journée, grosso modo. Un peu moins aujourd'hui, tu vois, je suis moins capable de le faire. Alors, attention, hein, je suis aussi, mon contexte est un peu particulier, c'est peut-être dû à ça aussi, je me cherche, etc. Chapitre 3. Je ne sais pas où je vais aller, mais il faut que je trouve.
Tu me dis si c'est trop personnel comme question, mais en fait, je t'ai revue récemment à la salle de gym.
Ouais.
Et justement, est-ce que c'était début janvier, il me semble, et on se croise de temps en temps. Est-ce que tu as eu l'impression que d'avoir un coach de sport, ça t'aide justement sur ce côté d'avoir plus de stamina, d'endurance ou de force. T'as l'impression que ça t'aide là d'avoir de faire plus de sport ou de faire du sport, quoi.
J'ai plus le choix. T'as 50 ans, t'as plus le choix. C'est très simple, tes muscles. Moi, je prends l'ostéoporose. Il faut le faire et on devrait le faire d'ailleurs dès 40 ans parce que je suis arrivée à un point aujourd'hui, moi, ma densité osseuse commence à être affectée, etc. Donc maintenant, je n'ai plus ça. Maintenant, le personal trainer, c'est fabuleux, il me le faut tout simplement pour la discipline, pour le commitment. Parce que moi, j'ai un job qui est 7 jours sur 7. Et tu l'as vu la semaine passée, j'étais annulée parce que j'ai des rendez-vous, tu vois, back to back toute la journée. Et donc, si je n'ai pas quelqu'un qui m'impose d'aller à la gym, je trouverai moyen d'aller travailler. Donc, j'ai besoin plutôt de cette routine, cette structure qui m'aide à le faire parce que je n'ai pas le choix.
Donc, on se recroisera dans les couloirs de la salle de gym.
J'en fasse plus d'ailleurs, mais ça fait partie de mon troisième.
Là, j'ai mon t-shirt, tu sais, j'y vais là, juste après.
D'accord. je devrais me trouver. C'est ça qui est très difficile. Et je suis sûre que c'est pareil pour toi, Mathilde. C'est d'avoir cette discipline, quoi. Enfin, à moins d'être très sportif. Moi, je ne le suis pas.
Mais moi, quand même, j'aime la sensation que ça fait, mais c'est le fait de payer. Tous les 15 jours, je veux pas perdre ça. Bon, bref. j'ai une dernière question qui va peut-être pas être facile vu ce que tu viens de me dire, mais qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les 2-3 prochaines années, mais à tous les niveaux, un projet professionnel, un voyage.
C'est une super. Si seulement j'avais la réponse. Oh my gosh. Je sais pas. I'm blanking.
Cet été.
J'ai même pas envie de te dire. J'aurais, tu vois, un truc banal serait de dire d'être heureuse, mais non, en fait, même pas ça. C'est pas un but pour moi d'être heureuse. Tu vois, il y a ce over-humping sur le être heureuse qui veut rien dire en fait. Être bien, peut-être. Être bien. Je pense que moi, ce que j'ai peur aujourd'hui, c'est la solitude qui vient avec le fait d'être un empty nester, le syndrome du nid vide. Là. J'aimerais voir ce film avec Charlotte Gainsbourg quand ça sera disponible sur Prime. Bref, mais voilà quoi. C'est plus comment vais-je arriver à assumer cette nouvelle solitude. Tu veux, pendant 18 ans, tu t'occupes de ta gamine, tu t'occupes de ton mari, you care for someone. Et soudainement, à part mon chien, heureusement avec mon chien, heureusement que je l'ai, où est-ce que tu vas mettre ton énergie? Et c'était intense en plus. Moi, ça fait 4 ans que j'ai pris soin de mon mari. Tu vois, j'ai soulagé. Il y a Juliette que j'ai essayé aussi de gérer dans cette aventure aussi. Hein. Mm. Et soudainement, plus rien, le vide absolu. Donc, je crois que c'est ça, c'est trouver comment remplir, comment soulful, tu vois, quelque chose qui ait du sens, qui soit meaningful. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, comment je vais le faire. J'ai envie de plaisir peut-être. Tu vois, là, j'ai trouvé un truc. Hein. Ouais, on faisait de la pêche à la mouche, au fly fishing, tu sais, au saumon, okay. au Canada avec Pete. Et tu vois, je viens de trouver, on m'a partagé là, ce club de fly fishing club in Western Mass. Et, tu vois, j'ai envie d'expérience comme ça, de fratrie. Je ne sais pas. Et même professionnellement, je me dis, mais what's next? Oh, c'est pas beau, ça.
Merci, Jean-Marie. Mais oui, parce que ce plan que tu avais à 30 ans de dire, je vais être indépendante, je vais avoir
c'est ça, mon problème.
Et tu l'as, en fait. Mais c'est vrai que…
Mais non, parce que rappelle-toi, mon plan à 30 ans, c'était de me dire, sauf qui peut. Aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui m'a drivé dans mon business, dans ma construction, dans ma carrière, c'est ça. C'est protège-toi. Mmh. Et là, protège-moi? Non, ça ne va plus.
Bon, je te prends un moment alors où tu es finalement dans ce questionnement.
Ben ouais. Mais je pense que finalement, à toute décennie, on est tous confrontés. Et si tu regardes ta vie, même si… C'est tous les dizaines, il y a une espèce de mouvance comme ça, il y a une espèce de changement. Moi, j'ai toujours cru que la vie, c'était une espèce de renouveau. Tu es toujours sur un cycle, quoi. Hein? Birth, growth, maturity. Et on est tous comme ça. Et en fait, il faudrait s'écouter beaucoup mieux parce que des fois, on manque, on le voit pas, ça. Mais il faut le comprendre, c'est-à-dire que, et accepter, c'est-à-dire que quand tu es dans ce moment de doute, etc., ça participe en fait à la construction de ton soi.
Ouais.
Et c'est accepter d'avoir des moments de faiblesse, des moments, tu vois, c'est intéressant. La vie est intéressante.
Écoute, Sandrine, je te remercie.
Je ne veux pas déprimer tout le monde. Non, tu le sais, ça, Mathilde, je suis extrêmement positive. Mais mon positivisme vient aussi d'une espèce de fatalité, c'est-à-dire d'acceptance. Et je crois que c'est important d'aller chercher à l'intérieur pour… On se retrouve dans 2 ans.
Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté, parce que moi, ça m'agace parfois le côté positif, mais les gens ils vont dire la positivité qui est toxique, quoi, qui est juste souris, go. Et c'est vrai que j'aime bien chez toi ce côté d'être assez réaliste. Tu dis fataliste, et en même temps, tu gardes le smile et tu continues et tu te poses des questions. Et ça va, je ne voulais pas dire, voilà, on termine l'entretien sur quelque chose de très gloom.
Non, Nathalie. Ah, mais je pense que c'est clair dans la conversation. Enfin, le message, ouais, c'est vraiment que d'accepter ce qui vient à toi et d'essayer de le transformer, quoi. Et voilà. Et je te dis, on peut se parler dans un an. Et voilà. Mon histoire, avec tout ce que j'ai vécu, je suis tellement remplie in love, with my love story, with my life story. Mm-hmm. Je n'ai rien à reprocher. Donc, la seule truc, c'est quels sont les pas que je vais faire pour faire mieux, faire différent, ouvrir peut-être aux autres, faire du mentorship. Des fois, je me dis peut-être que tu devrais faire ça. Tu devrais aider les jeunes qui veulent se lancer à avoir un business et être, tu vois, satisfait ou bien dans leur… Je ne sais pas. Ça, ouais, c'est demain est un autre jour.
Ouais, se connecter, je pense que c'est d'ouvrir vers les autres. J'aime bien
ouais, ça. Je me demande si c'est pas ça finalement, tu vois, d'avoir, je me dis, si je peux aider quelqu'un à passer des caps, tu vois, ou que ce soit dans le business ou dans la vie, je le ferai avec vraiment plaisir, quoi. Parce que, je ne vais pas rentrer dans la... Mais de la même manière, je n'ai jamais vu un thérapisme à celle, parce que j'ai toujours décidé que je serais celle qui ferait le chemin. Alors, des fois, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui t'aide à trouver ce chemin. Mais c'est aussi un défi. Je ne sais pas, c'est compliqué.
Écoute, oh God,
maybe I need to see a therapist to moi, get the depths of this.
Moi, je ne peux pas passer ma vie sans ma thérapeute, justement, sans ma psy.
Oui, non, mais peut-être que tu vois, j'ai un blocage, peut-être que je devrais. C'est peut-être ça que je devrais faire. Oh,
mais en tout cas, Sandrine, on a commencé par l'accompagnement, c'était ton mot, et on termine par l'accompagnement, c'est magique.
T'as raison. Mmh. Magnifique.
Full circle.
Full circle. Love it. Merci beaucoup, Mathilde. J'espère que ça a été un bon moment pour toi. Pour moi, je trouve cette... C'est super intéressant parce qu'en fait, ça a été plein d'interrogations pour moi aussi. Donc, je vais conclure là-dessus et me dire c'est bien parce que je vais aller réfléchir maintenant.
on se croise en ville, au sport, au hasard.
Absolument, toujours avec plaisir.
Ciao Sandrine.
Et super de faire ça, je trouve que c'est génial. J'en ai écouté quelques-uns, c'est super, c'est bien.
Mille merci à Sandrine pour sa vulnérabilité et son ouverture à discuter de sujets passionnants et pas toujours faciles. Retrouvez toutes les infos pour suivre What's Next en notes de ce podcast. Et je vous l'ai dit en intro, il y a deux façons de soutenir What's Next. La première, c'est de vous abonner à une formule payante de What's Next, la newsletter, sur whatsnextmathilde.substack.com. Vous pouvez le faire juste pour un mois, une fois, pour voir, pour essayer ce que ça fait. Et la deuxième façon, c'est de parler de ce podcast autour de vous, de le partager sur les réseaux sociaux, de le noter, de l'envoyer à un ami, une amie, une cousine, votre maman, votre sœur, votre frère, quelqu'un qui est concerné par ce sujet des trajectoires de vie non linéaires et qui a l'impression d'être seul dans son coin. Vous n'êtes pas seul. Je vous retrouve cette semaine sur whatsnextmathilde.substack.com pour mon article mensuel de recommandation. Vous vous souvenez peut-être du temps du blog. J'avais un blog que j'ai tenu religieusement pendant des années et des années qui s'appelait Le Blog de Mathilde. Et je postais une rubrique hebdomadaire qui s'appelait le Monday Morning. Et bien en fait, le Monday Morning, il est devenu mensuel et il est sur What's Next. Une fois par mois, tous mes coups de cœur. Cette semaine, je vais vous parler entre autres des 1000 mots de l'été. C'est un challenge d'écriture. Je vous raconte tout ça, voilà, sur whatsnextmathilde.substack.com. Je vous vois là-bas et puis je vous dis rendez-vous dans 2 ou 3 semaines pour le prochain épisode. Dans 2 semaines normalement. Il est enregistré, ça devrait être posté, voilà, le 14 juin. À très bientôt. Merci de votre écoute.